Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour moi, le cool, c'est les gens qui ont leur propre idée, leur propre style, leur propre mode de vie.
Pour moi, être cool, c'est avant tout être dans un bon mood et tout.
Tu peux ressembler à un tueur frère, littéralement, et être cool. Hein.
Ouais.
Regardez Robinson Crusoe, il ressemble à rien, enfin, il est cool. Hein. Voilà.
Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois.
Bah non, je sais pas.
Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi.
Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool? Oui, le cool. Qui est cool? Qu'est-ce que le cool? Où est le cool? C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le cool? On y va? C'est parti! En juillet dernier, Boris Provost, le directeur du show Tranoï, nous avait ouvert les portes de ce mythique salon de la mode pour nous en expliquer les enjeux, mais aussi son fonctionnement. À l'occasion de la Fashion Week Printemps-Été 2022 Femmes, Tranoï s'est tenu au Palais de Tokyo. À cette occasion, nous avons pu en infiltrer les coulisses en assistant au comité de sélection, puis en allant à la rencontre de deux jeunes créateurs que nous avons suivis tout au long du salon. Retour sur le comité de sélection avec Boris Provost, Marco Collet-Pilly et Constance Dubois.
Alors, je suis Marco, je suis le Fashion Director de Tranoï, donc je m'occupe de la relation exposant, de l'offre des salons et donc la sélection aussi des marques.
Alors, comment s'opère cette sélection, justement? Comment, donc, tu reçois, ce sont des offres qui arrivent, tu parlais tout à l'heure j'avais des appels entrants, des marques qui te sont envoyées. Comment ça se passe?
Alors, il se passe de plusieurs façons. On a la chance d'avoir beaucoup aussi de demandes entrantes. Donc, c'est des designers du monde entier qui veulent se lancer.
Ce sont des candidatures spontanées.
Exactement. Qui veulent se lancer sur Paris. Donc, ils nous connaissent parce qu'ils ont visité le salon où on lui a suggéré le salon. Donc, ils nous contactent. Après, on a aussi une équipe qui va à la recherche de nouveaux talents, qui visite toutes les fashion week, les showrooms dans le monde entier. Et aussi, évidemment, aussi les showrooms qui peuvent nous suggérer des marques. Et puis évidemment, on a aussi Instagram qui reste un outil quand même très important.
Oui, j'ai vu qu'on le verra d'ailleurs dans le reportage qui accompagne ce podcast. Donc tu reçois une marque, il y a une première sélection déjà faite par ton équipe, c'est ça?
Exactement. Il y a déjà un premier screening, il y a deux screenings avant que ça arrive au comité de sélection. Mmh. Il y a d'abord par nos assistants qui vérifient que le dossier soit complet, parce qu'en fait on va regarder plusieurs facteurs sur une collection. On va regarder déjà si les lookbooks, line sheet, pressbook sont prêts et s'ils sont à disposition, et aussi que le dossier des candidatures soit complété, parce qu'on a besoin de savoir quand est-ce qu'ils ont commencé, leur chiffre d'affaires, les employés, leur histoire, leurs ambitions, plusieurs, on va dire, données qui nous permettent de pas juger, mais sélectionner une marque et voir s'il faut aller plus loin dans les échanges avec elle.
Et après, donc, la marque arrive ici dans ce comité de sélection et là, vous tranchez.
Oui, exactement. On tranche par rapport à plusieurs choses. Tout d'abord, on regarde l'offre existante. Donc, on va regarder déjà quelles sont les marques, quel genre de produits nous avons. On a aussi des retours réguliers et très assidus de l'équipe acheteur, donc des personnes qui achètent ces collections. Donc, on a des personnes qui s'occupent des retailers du monde entier. Donc, ils nous font des retours selon les besoins.
Ceux qui viennent sur le salon.
Exactement, les visiteurs. Et pour satisfaire cette demande, donc, on va choisir des marques pour satisfaire cette demande exactement. Ou bien aussi, on prend parfois aussi des paris, des collections qu'on veut offrir et voir quelle est la réaction du visiteur.
Et là, pour septembre 2021, quelles sont les demandes des acheteurs?
Alors, on a une grande demande sur tout ce qui est resort, donc tout ce qui est, on va dire, la silhouette, d'accord, pour aller à la plage. Donc, ça peut être du bijou au maillot de bain, au sac, aux tuniques, au parfum pour aller à la plage, ce qui peut être très important. On a quand même aussi besoin de produits qui se vendent, parce que quand même, on a passé des années, des mois très compliqués. Donc, les boutiques ont quand même besoin de produits qui peuvent vendre assez facilement. On n'est pas dans du commercial bas de gamme. Oui. On est quand même dans du, ce qu'on appelle du contemporary.
C'est plus seulement de l'image, parce que vous parlez Exactement. Beaucoup de l'image. J'ai une question pour Boris Provost à ce sujet. Alors, une fois, et là, vous validez. Donc, dans ce cas-là, vous contactez la marque et puis c'est parti. Est-ce que vous avez un œil quand même sur la sélection qu'elle va ramener sur le salon?
Oui, bien sûr. On demande de ramener environ 10 pièces par portant. C'est très important pour voir la taille. Et puis surtout, le jour du montage, c'est une très grosse journée pour nous, surtout moi, parce que je vais aller vraiment regarder tous les portants et m'assurer voilà, que les pièces correspondent à ce que nous avons vu, mais aussi que ce soit joli comme on veut que ce soit représenté sur nos salons.
Et dans le pire des cas, si ce n'est pas joli, comment ça se passe?
On leur explique.
Parce que voilà, ce qui m'étonne, là j'ai assisté donc, pendant 7 heures à ce comité de sélection, et ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas les échantillons des vêtements finalement. C'est l'époque d'avant, c'est fini, c'est révolu?
Alors oui, c'est vrai. Il y a quelques années, les échantillons étaient obligatoires. Aujourd'hui, le temps nous impose d'aller un peu plus vite. Cependant, quand nous avons des doutes sur la qualité ou la fabrication, on demande quand même des échantillons, on veut voir avant de trancher. Mais aujourd'hui, oui, on peut faire de la sélection. Avec les photos, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et puis, encore une fois, voilà, sur salon, on va vérifier que ça correspond et qu'on n'ait pas des surprises.
Donc, j'ai vu qu'après, il y a vraiment un accompagnement, j'ai l'impression, dans ce que vous dites. Donc là, tout à l'heure, vous avez refusé des marques, mais vous avez dit, on va les suivre, ou alors on va les inviter sur le salon pour les accompagner, c'est
Exactement,
ça
Exactement, bien sûr. Donc,
pendant le salon, il n'y a pas que l'exposition, les rencontres avec les acheteurs. Il y a l'équipe présente et j'ai l'impression que vous aidez aussi vachement les marques.
Oui, bien sûr, parce que nous voulons accompagner les marques, pas simplement pendant les jours de l'événement, mais aussi toute l'année. Donc effectivement, on a des talents qui sont présents avec nous et on va les mettre en contact avec des acheteurs. Il y a aussi des clients potentiels de demain qui ne sont pas prêts. Mmh. Il faut leur dire aussi qu'ils ne sont pas prêts et pourquoi ils ne sont pas prêts. Pour les faire justement grandir et les accompagner après dans le futur.
Alors la chose amusante, alors c'est vrai qu'il y a la fiche technique avec le chiffre d'affaires, le personnel, le lieu de fabrication, le lieu de distribution, etc. Et il y a aussi, vous regardez Instagram, le feed Instagram, et vous regardez même qui les suit.
Bien sûr.
On a vu que Lady Gaga était présente partout.
Exactement.
Mais pourquoi c'est important pour vous?
Parce que l'Instagram, en fait, on réfléchit un peu comme les acheteurs font. Ouais. Aujourd'hui, nous savons aussi que les acheteurs, avant d'acheter, regardent Instagram, le nombre de followers, qui parmi leurs contacts suit cette marque. Donc, parfois, ça peut être super parce qu'on sait que des key people suivent cette marque. Donc, on se dit, bon, elle est déjà suivie, c'est intéressant. Ou bien, il n'y a personne. C'est tout aussi excitant. On se dit, on va être les premiers. Allons-y, on va les pousser et on va être les premiers.
Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le sentiment de te tromper sur une marque?
Oui, bien sûr. Qui ne se trompe pas, n'est-ce pas? Donc, ça, on s'est trompé. Parfois aussi, la marque ne nous a pas suivi dans nos conseils. Ça peut arriver, évidemment, bien sûr.
Là, je me tourne vers Boris Provost, justement. Tu as utilisé un terme. Tu as refusé une marque. Et tu lui as dit, de toute façon, je veux lui rendre service. Parce que si elle vient, en gros, tu as l'air de dire que elle ne vendrait pas, donc ce serait même plus rentable pour elle.
Notre rôle, quand même, c'est d'accompagner la marque dans son développement commercial. Donc aujourd'hui, accepter une marque, lui facturer une location et lui faire dépenser un budget, alors qu'on estime, par rapport aux éléments qui nous ont fait juger la collection, qu'elle n'est pas prête à avoir une démarche commerciale, et qu'elle ne va pas obtenir assez d'adhésion de la part des acheteurs, c'est dommage. Il y a des discussions qu'on a avec des jeunes créateurs qui nous disent « je ne suis pas spécialement prêt commercialement, je n'ai pas trop d'idées de ma distribution, je me lance, mais un, c'est hyper créatif, et deux, Elle sait pourquoi elle vient, elle veut tester le marché, elle veut rencontrer du monde, elle veut avoir du feedback des acheteurs. Donc, elle ne va pas être en attente de vendre tout de suite. Mmh. Il y a des marques qui arrivent avec une maturité en disant « Moi, je veux faire tant de points de vente, je veux absolument vendre à cette collection. » Et là, pour le coup, on pense qu'elles ne sont pas prêtes. Donc, on préfère leur dire « Passe une saison, tu viens au salon, tu vois comment ça se passe, tu vois le setup. » Marco parlait de l'accompagnement et de la sélection des produits, même sur le portant. C'est un service qu'on a développé il y a 2 ans qui s'appelle un service gratuit, hein, avec votre participation, qui est du visuel marché. Merchandising.
Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a une véritable mise en scène.
Elle nous fait confiance. On lui dit, si tu enlèves ces deux produits-là, que tu les réorganises comme ça, sur une telle progression couleur et progression forme, on te dit que c'est plus vendeur pour un retailer. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de débat. Elle nous fait confiance. Alors, des fois, on bataille un peu parce qu'il dit, non, mais je veux absolument montrer ce produit ou parce que c'est important. Il dit, bah, tu peux le montrer, mais pas de cette façon-là, sur l'autre portant ou différemment. Juste dire en fin de compte que tous nos conseils, ils sont dans un but de garantir la bonne visibilité au créateur et d'essayer de lui garantir un maximum de rentabilité par rapport à sa participation. Les jeunes créateurs, ils prennent rarement de commandes à un premier salon. Donc, il faut au moins qu'ils soient bien présentés, qu'ils fassent de bons contacts. On parlait des rendez-vous qu'on prenait aussi en amont pour les jeunes créateurs qui n'ont pas de réseau, souvent quand ils viennent. Donc, on les accompagne aussi. On essaye de leur organiser des rencontres avec des acheteurs qui nous ont confirmé leur venue à telle date sur le salon pour vraiment garantir qu'ils commencent à se faire un réseau, un network. Donc, voilà, nous, notre seul souci, c'est qu'ils aient une participation, j'ai envie de dire, florissante et rentabilisante.
J'ai l'impression qu'il y a un véritable... C'est pas l'impression, c'est vraiment la sensation, je trouve ça formidable, il y a un véritable investissement de toute l'équipe Tranoï. En fait, vous êtes tous derrière ces jeunes créateurs, ou plus ou moins jeunes, parce que tout à l'heure, une boîte qui avait 20 ans, hein, une marque qui a postulé, que vous n'avez pas gardé d'ailleurs.
On l'a pas gardé justement parce qu'elle n'avait pas
le discours commercial, c'est ça?
C'est pas ça, c'est qu'elle fait, je vais pas révéler son chiffre d'affaires parce que c'est confidentiel, mais elle fait vraiment un chiffre d'affaires au bout de 20 ans qui est vraiment tout petit. Elle a une toute petite distribution, donc c'est vrai qu'au point de vue business, c'est aussi pour ça qu'on demande ses données business, sa stratégie commerciale, comment elle est organisée, dans quel showroom elle est représentée, qu'est-ce qu'elle vise comme marché et autres. Parce que quand vous existez depuis 20 ans et que vous faites un tout petit chiffre et que vous êtes 3, c'est que soit vous êtes hyper pointu, hyper premium, et ça se comprend. Mais si du coup, on ne voit pas, le plus comme ça sur le dossier qu'on a reçu, c'est qu'il y a un souci. Donc, on ne l'abandonne pas, on va aller plus loin dans la discussion et puis on va voir où nous, ça pêche pour peut-être l'accompagner plus sur un volet plus business que style. Mais...
voilà, c'est ça, il y a un véritable accompagnement.
Et après, quand tu dis l'accompagnement, c'est qu'on a fait ce comité de sélection. Le boulot de l'équipe de Marco, c'est d'aller repérer les marques. Il te l'a expliqué très, très bien. Mais après, le comité de sélection, on l'a ouvert au reste de l'équipe aussi parce que un marketeur, quelqu'un de la com, Constance, elle a un œil qui est aussi complémentaire. Constance, son job et le job de son équipe, c'est d'aller proposer ses marques aux acheteurs.
Mais je dirais que Constance est même plus, pas plus exigeante, mais me paraît plus. T'étais plus dans le pratique.
Est-ce qu'elle est plus exigeante d'un point de vue global dans la vie? Ça ressort au comité de sélection.
Mais c'est vrai qu'à un moment tu disais oui, non, ça fait un peu déguisement ou ça c'est important aussi. L'autre chose qui était intéressante, c'est le discours sur l'upcycling, parce qu'il y a des marques qui ne le précisent pas toujours. Donc, est-ce que c'est obligatoire de le préciser ou alors, comme dit maintenant Marco, c'est la base?
Non, alors l'upcycling, c'est pas la base, mais ce qui est aujourd'hui la base, je dirais que c'est tout l'éco-conscience, okay, qui est vraiment de manière naturelle dans toutes les collections des jeunes de moins de 30 ans ou des nouvelles collections qu'on reçoit. La démarche, elle est dans le concept de la marque.
C'est en cela que tu disais que c'est la base.
Voilà. Voilà. Après, l'upcycling, certaines démarches de traçabilité de produits, de réinsertion, c'est des démarches qui complètent l'ADN de la marque.
Vous vérifiez un peu les informations quand même. Est-ce que vous effectuez une petite traçabilité pour vérifier les dires justement de la marque?
Alors, nous allons vérifier si, par exemple, parfois, les marques, pour nous, c'est très important aussi la distribution. Quand une marque commence et on met, elle a zéro distribution, c'est très bien, comme je disais aussi tout à l'heure, ça peut être intéressant parce qu'ils vont être les premiers à être avec nous. Par contre, quand une marque commence à mettre des points de vente assez connus, importants, on vérifie quand même que ça existe. Donc, on va vérifier sur les sites internet ou bien on va contacter l'acheteur pour savoir s'ils ont encore cette marque ou pas, s'ils l'ont plus, pour quelle est la raison. Parfois, il peut y avoir des raisons plus ou moins importantes, mais c'est bien pour nous avoir aussi un retour du marché.
Ça permet aussi, quand tu as un doute, tu vois, tu te dis « Ah, cette marque, on existe, mais sa distribution est super. » Donc, on va aller creuser sur 2-3 détaillants pour vérifier est-ce qu'ils la vendent toujours, quand est-ce qu'ils l'ont vendu, sur un produit spécifique, s'ils ont fait une collab, si c'est un produit qui se vend bien, du coup, aussi, tu vois. S'ils livrent bien et tout, ça nous donne aussi un vrai retour marché de la qualité, du professionnalisme de l'entreprise.
Alors là, nous sommes à 3 semaines du salon. Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il y a encore un nouveau comité de sélection ou c'est fini?
Non, c'est fini, c'est fini. Alors, pour le moment, c'est fini. On n'est pas à l'abri d'avoir encore des demandes auxquelles nous allons répondre, parce que c'est quand même important. Pour le moment, c'est fini, mais voilà. Peut-être qu'il y en aura encore un à quelques jours de l'événement, c'est possible.
Mais pardon,
on n'a plus de place. Ça, malheureusement, enfin, heureusement, je vais dire, depuis quelques semaines, le salon avec la sélection que nous avons fait aujourd'hui, il va être complet.
Heureusement.
Ah, ouais.
Bon, on se retrouve sur le salon.
On se retrouve sur le salon du 30 septembre au 3 octobre au Palais de Tokyo. Voilà, on est ravis. Il y aura un espace Fashion Gasoil. Donc,
on sera ravis
que tu sois là avec ton équipe.
Je verrai si Marco n'a pas de déception ou autre. Merci à vous et merci pour votre confiance. Merci Boris, merci Marco, merci Constance. J'aurais dû dire merci Constance en premier. C'est vrai. À suivre.
Merci Valérie.
Je suis allée à la rencontre d'une des premières sélectionnées par le comité Tranoï, Armin Ohanian. Armin adore les matières, adore le coton, adore les matières travaillées, adore le plissé. Je l'ai rencontrée dans son atelier showroom rue de Turenne. Et ce que j'ai aimé chez elle, c'est sa définition d'un créateur. Pour elle, un créateur est un artiste. Qui es-tu, Armin? Peux-tu nous parler de ton parcours?
Je suis Armin Ohanian, créatrice de mode. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Yerevan, parce que je suis arménienne. Ensuite, aux Beaux-Arts de Lyon. J'ai finalisé mes études dans une école de mode à Paris.
Laquelle?
Modesta, ça s'appelle. Ouais.
Et comment as-tu, pourquoi es-tu venue à Paris, finalement? Pourquoi tu t'es installée, t'as ton showroom, ta boutique, ton atelier à Paris? Pourquoi Paris?
Quand j'avais 11 ans, je suis venue en France parce que j'étais sélectionnée parmi les meilleurs élèves dans le cadre d'un échange entre deux villes jumelées. Et je suis tombée amoureuse de la France et je me suis dit un jour je reviendrai. Et après avoir fait mes études aux Beaux-Arts de Yerevan, j'ai pu... J'avais une possibilité de faire aussi mes études ailleurs, donc j'ai choisi la France.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'ADN de ta marque?
C'est une marque de technocouture qui fusionne les nouvelles technologies et l'artisanat. Je travaille avec de différents artisans comme maître plisseur, le plumassier, les brodeurs, etc. Et j'utilise aussi les nouvelles technologies comme l'impression 3D, la découpe laser, le thermoformage. Donc, je fusionne ces deux univers.
Tu nous as expliqué tout à l'heure, quand tu nous as fait visiter ton atelier, que tu fais beaucoup de recherches. De tests. Pourquoi? C'est l'avenir de la couture pour toi?
Pour moi, c'est
de important. De la mode aussi.
Oui, oui, tout à fait. Bah, déjà, j'ai une formation aussi de design textile. Et pour moi, je commence mes recherches par le textile, par les recherches sur la matière. Et c'est ça qui me donne des idées pour créer ensuite les vêtements. Et je pense que c'est important qu'on fasse ce travail parce que tout va trop vite. On n'a pas beaucoup de temps de
réfléchir.
Qu'est-ce
que tu entends par « tout va trop vite »
Dans la mode, on ne donne pas aux créatifs le temps de créer. de faire les recherches.
C'est intéressant, et ça, c'est ce la que
clé.
Tu dis.
Ouais. Oui, ça, c'est la clé, je pense, d'un produit qui est bien fait, qui est bien réfléchi. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Et cette année, justement, j'ai pris mon temps pour vraiment me prendre mon temps de savoir ce que je veux exactement, ce que j'aime exactement faire. Et cette collection, je pense que ça va vraiment en présenter.
Donc, c'est ce que tu vas présenter, oui, à Tranoï.
Oui.
Quel va être le fil conducteur? On ira te voir sur le salon, de toute façon. Mais
Je vais mêler l'art, la mode et les nouvelles technologies.
L'art, la mode et les nouvelles technologies. Quand tu as passé l'épreuve du bureau de sélection, parce qu'ils sont très, oui, très sélectifs sur Tranoï, qu'est-ce que tu as mis en avant, justement? C'est cette techno-couture, c'est,
Oui, mon savoir-faire. Le savoir-faire, le travail de l'artisanat, des nouvelles technologies, une vision un peu différente sur la mode, sur la fast fashion, quelque chose d'unique que j'ai envie de préserver.
Et intemporel un peu aussi, non?
Et intemporel, des pièces qui vont durer dans le temps.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune créateur qui justement n'ose pas? Tu as attendu 4 ans avant de faire Tranoï.
Oui.
Pourquoi tu as attendu autant de temps et quel conseil pourrais-tu donner?
Vous savez, je pense que dans la mode, on a besoin d'être bien entouré. Et parfois, quand on débute, on ne sait pas par quoi il faut commencer, vers où il faut se diriger. Donc, mon conseil, c'est de s'écouter, de faire ce qu'ils aiment vraiment, profondément. Et après, être... bien sûr, bien entouré, avoir de bons conseils, parce qu'un créatif a toujours besoin de bons conseils, d'être bien entouré.
Alors, on te souhaite un très bon salon, merci, avec les meilleurs contacts, et puis on se retrouve maintenant une dizaine de jours sur, oui, Tranoï.
Avec plaisir.
Merci Hermine.
Merci.
Bravo. D'être venue. Bravo.
Merci.
Autre sélectionné, Alphonse Maître-Pierre, un jeune homme à l'avenir prometteur que nous avons suivi jusqu'à la préparation de son défilé. Alors, qui es-tu, Alphonse?
Alors, je m'appelle Alphonse Maître-Pierre, j'ai donc 26 ans, j'ai lancé une marque qui s'appelle Maître-Pierre il y a 2 ans, et qui est une marque basée sur entre guillemets l'innovation textile, l'upcycling. Enfin voilà, il y a cette volonté de faire un peu les vêtements différemment, tout fait en France, mais surtout avec une ADN qui est entre la couture et le digital, et qui s'inscrit, j'espère, dans quelque chose dans un process un peu contemporain et qui, je l'espère, sort parfois un peu des sentiers de la mode.
Et c'est-à-dire
parfois un poil trop commercial. Mmh. C'est que j'aime bien, c'est un peu une mission à chaque fois de me dire dans mes collections que je pense qu'il y a énormément de gens qui font de très beaux vêtements et que on n'a pas forcément, j'aurais pas senti la nécessité sinon de faire une marque, mais moi, je sais que j'aime bien voir la mode comme un labo et un labo artistique dans lequel souvent d'ailleurs je fais collaborer beaucoup d'artistes et j'aime me dire qu'à chaque fois on crée un peu un personnage, on crée une narration.
À 26 ans, tu as déjà fait des belles collaborations, non, avec Emmanuel Kahn?
Oui, exact. Enfin,
tu l'as faite il y a 2 ans, non?
Elle est en process depuis un sacré moment, elle est en process depuis 2 ans, mais on l'a sortie effectivement il y a un an, ouais. Donc c'est tout neuf.
Alors, je te suis parce que tu vas faire le salon Tranoï. Est-ce que c'est la première fois que tu le fais?
Et oui, Tranoï, c'est la toute première fois. Je suis super content parce que j'avais adoré faire. Enfin, les showrooms au Palais de Tokyo sont toujours incroyables. Et à l'époque, j'avais été invité sur le Designer Appartement, qui était le showroom à l'époque de la Fédération, et qui était vraiment, vraiment génial. Et donc là, je suis très heureux d'y retourner. Et cette fois-ci, en plus, pour Tranoï. Donc c'est vraiment génial.
Qu'est-ce que ça peut t'apporter d'être sur Tranoï?
C'est évidemment le nom, c'est un salon qui est très connu, reconnu, et puis aussi je pense que dans un moment un peu fraîchement post-Covid. J'ai la sensation aussi qu'on a déjà fait des showrooms, nous, de notre côté. Je ne suis pas forcément sûr que là, tous les bailleurs vont pouvoir voyager ou autre. Et je pense que c'est bien aussi de centraliser la jeune création, voilà, les jeunes marques, comme ça au moins, les bailleurs intéressés, ça vous allez...
Oui, et puis aussi, les bailleurs, les acheteurs... Sur le salon Traneuil, il y aura aussi un espace où les acheteurs peuvent regarder les vêtements à distance.
Oui, voilà, exact. Exact.
Comment ça s'appelle,
mais moi non plus. Non.
Nous le dirons. On le verra, on le filmera sur Traneuil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Oh là là.
Cette année, déjà, ça a été ton année avec le prix donc, de la mairie de Paris. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu aimerais continuer à avoir ta marque ou tu aimerais reprendre la direction artistique d'une grande maison de couture?
C'est mon rêve.
C'est ton rêve?
C'est mon rêve. En fait, c'est la collection là que je vais présenter, elle s'appelle Algo Archives, parce qu'elle parle justement, en fait, c'est vraiment un double concept entre l'algorithme, donc quelque chose d'assez futuriste, et les archives. Et c'est vrai que j'ai une passion vraiment, vraiment dingue pour les archives. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionne.
Des archives des grandes maisons de couture.
Exactement. Alors, et des vieux magazines. Et c'est vraiment quelque chose qui...
On le voit dans les tissus. Hein.
Oui.
On le voit. Mais t'aimerais bosser pour qui?
En fait, sincèrement, pas n'importe quelle maison, parce que c'est pas vrai. Il me faudrait une vieille maison. Une vieille maison, justement, avec des archives, avec une histoire. Oui. Ce qu'il y a.
Chanel, Saint-Laurent, oui. Une petite maison comme ça, en fait.
Oh, non, j'ai une passion incroyable pour le travail de Cristobal Balenciaga. Oui. C'est vraiment, moi, ma référence absolue en termes de volume, de couleur, de matière. Ce qu'il faisait dans les années 50, moi, je pense que c'était tellement futuriste, c'était tellement contemporain, c'était tellement efficace. Et c'est sublime aussi encore ce que fait Demna. Mais je trouve que voilà, il y a des maisons qui ont comme ça des archives qui sont vraiment merveilleuses. Et j'adorerais pouvoir rouvrir des vieux classeurs et continuer ma marque, évidemment, mais avoir un terrain de jeu où il y a, entre guillemets, plus de passé à explorer, à détourner.
Qui en dit long sur la société de l'époque.
Complètement.
C'est ça, c'est l'aspect aussi historique, sociologique, exact. Économique.
Exactement.
Ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite.
Merci.
On va te suivre de près. Et alors, la couleur de cheveux bleus, c'est
Une bêtise.
Pour l'occasion. Ah, une bêtise. non, mais t'as à sortir mon micro, c'est parfait.
En fait, c'était uniquement pour ça. Non. Un petit coup de folie, j'avais envie.
C'est bien, la mode, c'est ça aussi.
Exactement.
Je te dis à la semaine prochaine.
Oui. Oh, déjà, mon Dieu, oui.
Bon préparatif. Merci beaucoup.
Merci.
Salut, Alphonse.
Salut.
Merci infiniment à Traneuil pour sa confiance et à tous ces jeunes créateurs qui sont tout aussi épatants les uns que les autres et prometteurs et qui nous ouvrent une mode peut-être un peu différente, un monde meilleur. En attendant, je vous dis à très vite. Vous retrouverez l'intégralité des vidéos, des interviews sur le prochain Fashion Gasoil, ainsi qu'un résumé de tout ce que nous aurons vu et d'autres exclusivités encore sur le salon. À très vite, merci.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.